Nouvel épisode du podcast Smells Like Teen Music, troisième rendez-vous déjà, après un numéro pilote pour s'échauffer et un véritable premier numéro qui semble avoir comblé les 90sophiles les plus endurcis. On continue sur notre lancée, on vous a préparé une belle playlist que l'on commentera et remettra rapidement dans son contexte. Attention, on revient quasiment 20 ans en arrière et on s'immerge à fond dans ce que la décennie des années 90 nous a offert de plus excitant en termes de power pop, grunge, punk rock, emo rock et d'alternative rock. Seb, est-ce que tout roule ?
Ça va super bien, ça me contente de te retrouver, content aussi de retrouver les auditeurs du podcast qui ont été si sympas ces derniers temps, qui nous ont envoyé plein de bons commentaires, donc ça fait plaisir de les retrouver. Sam, aujourd'hui, c'est toi qui vas ouvrir les hostilités avec un groupe de héros anonymes du courant emo-punk de la fin des 90s.
C'est ça, j'ai choisi le groupe canadien Painted Thin. Le morceau s'appelle Thousand a Year, extrait de l'album Clear Plausible Stories. C'est sorti en 1999, donc à la fin des années 90, mais on y est encore. Un groupe canadien dans lequel on retrouve des membres qui joueront dans Wicker Dance et 60 Stories, un groupe affilié à Propagandhi, puisqu'ils ont sorti quelques-unes de leurs productions sur le label G7 Welcoming Committee Records, une structure gérée par les mecs de Propagandhi, donc. J'ai connu ce groupe via un EP vinyle antérieur à cet album-là, dégoté dans une distro lors d'un concert d'un de mes groupes, Second Rate. Voilà. L'anecdote, le petit truc personnel que j'entretiens avec ce groupe, c'est qu'un mec qui avait organisé un concert de Second Rate aux alentours de 1999 nous avait proposé de faire un split CD avec eux. C'est donc lui qui nous avait fait connaître ce groupe, qui, selon ses dires, avait des similitudes avec ce qu'on jouait à l'époque. Le projet n'a malheureusement jamais abouti, c'est fort dommage. Dans la foulée, donc, quand ce mec nous a parlé de ce groupe, on s'est procuré l'album sans plus attendre, et on l'a écouté un paquet de fois dans le van. Musicalement, on est pile poil dans l'emo pop punk, à la fois tendu et fragile, très mélodique, voire très mélancolique, un son typique de la fin des 90s qui annoncera ce que fera Wicker Dance et qui n'était pas très éloigné de ce que faisaient des groupes comme Get Up Kids, Promise Ring et Jets to Brazil en un peu plus fragile. Voilà Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce groupe ?
Ben justement, t'as cité la fameuse anecdote. Je voulais dire que c'était un groupe qui avait tourné en France, notamment en 1999, et qu'ils étaient passés de pas très loin de chez toi, à Célestat, au bar Le Tigre, un certain 18 avril.
C'est ça. Donc un café-concert qui existe encore. C'est en Alsace, Colmar, donc à 2h30 de chez moi, et c'est effectivement le mec qui avait organisé ce concert qui nous avait branché pour ce split qui n'aura jamais vu le jour. On écoute ce morceau, Seb.
You're
Allez, c'est à mon tour donc de vous envoyer de la zik. On va rester un petit peu dans le même rayon, un petit punk rock. J'ai choisi un titre qui est fait partie de ces gros tubes des années 90, dans ce rayon-là, un groupe énorme, Bad Religion. J'ai choisi American Jesus, premier single de l'album Recipe for Hate. Je sais pas si tu te rappelles, Sam, de la pochette de ce single. En tout cas, elle avait soulevé un tollé dans les milieux intégristes chrétiens aux États-Unis, puisque sur cette fameuse pochette de American Jesus, on pouvait voir un Christ ventripotent avec un regard vicieux, pelotonné et obtenir les faveurs de non-dénudés. Tu m'étonnes que ça ait pu en choquer quelques-uns. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, Recipe for Hate, c'est le dernier album de Bad Re à être sorti chez Epitaph. C'est un album qui, avec les années, laisse, je trouve, une impression un peu mitigée. Il y a des highlights comme American Jesus, Portrait of Authority ou Stuck on Nerves. Et puis, il y a des titres beaucoup plus anecdotiques où, perso, je trouve que les tentatives de Bad Religion de tenter des trucs nouveaux ne sont pas franchement convaincantes. En fait, moi, je préfère l'album suivant, Stranger Than Fiction, qui est, je trouve, beaucoup plus convaincant. N'empêche que American Jesus, je pense que on le connaît tous. Tous ceux qui aimions le punk rock à cette époque-là, ce titre, on l'a forcément accroché à un moment ou à un autre.
C'est sûr. Donc, c'est l'album le plus rock, hein, la discographie. Donc, quand tu dis qu'ils essayaient des trucs nouveaux, je pense pas qu'ils soient mis au jazz avant-gardiste, mais juste une approche peut-être à peine moins punk californienne de base. Et pour moi, donc, je suis complètement à l'opposé de ce que tu dis, parce que je pense que c'est un de mes albums de Bad Re préférés.
Comme quoi, tu vois.
Il laisse un peu de côté ses couches de cœur de choriste de l'église là, et, pour une approche plus rock, presque grungy parfois. Hein, donc
il lève carrément le pied. Et tu parles de grunge. Petit détail, mais qui a néanmoins son importance. On retrouve Eddie Vedder de Pearl Jam sur les backing vocals dans American Jesus.
Exactement, voilà. Et une autre petite anecdote, puisque j'avais repris ce morceau American Jesus dans la formule acoustique Teenage Mixtape, voilà. Et donc c'est un morceau qu'on a joué dans absolument tous nos concerts. Voilà pour ce morceau. Et donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais réécouter ce titre que j'ai pas écouté depuis quelques années.
Exercising his authority. We've got the American.
Alors, on enchaîne avec The Stone Roses. Le morceau s'appelle Driving South. Extrait de l'album Second Coming, sorti en 1994. Donc, The Stone Roses, c'est un groupe anglais de Manchester, un pionnier du mouvement appelé Madchester, hein, dans lequel on retrouvait des groupes tels que Happy Mondays, Charlatans, Inspiral Carpets, James et quelques autres. Issu du deuxième album, ce titre que je vous propose, très différent du premier, hein, puisque plus classique rock dans l'âme, hein, plus groove, moins éthéré, moins cotonneux. Un second album très ancré dans les années 70, hein, un album que j'ai écouté à fond quand j'étais au lycée, un de mes albums préférés de la vague Britpop. Je précise que John Squire, le guitariste de Stone Roses, est un de mes guitaristes préférés de tous les temps. Il a ensuite fondé un groupe qui s'appelait The Seahorses, qui ont sorti un seul album, qui s'appelle Do It Yourself, sorti en 1999. Je pense que je diffuserai un de leurs morceaux des Seahorses dans le cadre de cette émission. Voilà pour Stone Roses, donc un album très très différent du premier, hein, moins poppy, mais en tout cas qui a encore une grosse saveur et qui s'écoute très très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Seb ?
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu parlais de cette saveur 70s, ben c'est complètement ça. Ça avait d'ailleurs valu au groupe, dans les plus mauvaises chroniques de l'époque, d'être cité comme du sous Led Zeppelin. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de ces chroniques et de la critique à l'époque, c'est vrai qu'elle n'avait pas été tendre avec cet album des Stone Roses. Et c'est bien dommage, parce que bien qu'il était complètement boudé par la critique, moi je trouve que c'est un disque qui mérite d'être acquis. Musicalement, c'est du solide. Le guitariste, tu as parlé, je le trouve ben, comme toi, absolument époustouflant. La section rythmique, c'est ultra groovy, c'est vraiment cool. Le chanteur, n'en parlons pas, je le trouve dans sa nonchalance absolument magnifique. C'est finalement cette façon dont les choses sont imbriquées qui rend ce groupe vraiment unique. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ça avait été un échec commercial. Je pense qu'il y avait à la fois ben voilà la critique, peut-être aussi à l'époque Geffen, la maison de disques, avait pas su trop défendre ce disque. Je me souviens pas trop. Je crois pas à l'époque qu'il y avait eu une grosse promo sur ce Scud.
Ouais, ça avait quand même plutôt bien cartonné, puisque moi je l'avais eu quand j'étais au lycée, donc dans les rock sound, les rock et folk et compagnie, hein, c'était quand même un groupe qui était bien en vue. Par contre, je pense que quand c'est sorti en 1994, hein, pardon.
Décembre 94, ouais, donc tu vois. T'es...
Je pense que c'était complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se faisait, hein, en termes de grunge et de rock alternatif américain ou même anglais, qu'ils avaient un petit peu ben, mis les aiguilles de la DeLorean sur les années 70. Donc un petit peu à côté de la plaque quand c'est sorti, c'est sûr. Par contre, c'est un album qui sonne très bien maintenant, hein, puisqu'il y a eu un énorme retour, un énorme intérêt à nouveau sur les années 70 qu'on connaît actuellement, hein, avec le stoner, avec le psyché, avec tout ça. Et je pense que c'est un album qui pourrait être réédité et remis en avant par les mecs de Geffen, hein, et je pense qu'ils pourraient trouver un autre public qui pense que Stone Roses est techniquement et typiquement un groupe de Britpop, alors que pas seulement.
Ah non, pas seulement, et puis aussi certainement que le décalage énorme qu'on trouve entre leur premier album de 89, Fool's Gold, qui en plus avait été élu, je me rappelle, meilleur disque du 21e siècle par le NME, je pense que ce décalage énorme entre le premier album et puis Second Coming a fait aussi que certaines personnes n'ont probablement pas trouvé leur compte dans cet excellent album qui mériterait ouais, effectivement un beaucoup de projecteurs.
Voilà, donc nous on met un petit coup d'étincelle dessus avec ce morceau Driving South. On écoute ça. We'll
Allez, on va changer complètement de registre après ce rock 70s des Stone Roses. Moi, j'ai choisi de retourner dans ce que j'aime le plus dans ces années-là. C'est un petit peu tout ce courant power pop, légèrement punky, ricain. Et j'ai choisi de vous proposer un titre de Mania Pop, un groupe qu'on cite rarement, et pourtant, moi, je le trouve véritablement excellent, ce groupe d'Atlanta. Un groupe mixte, puisqu'il y avait deux nanas et deux mecs à l'intérieur de ce groupe. Je le classerais perso dans la même catégorie que les Lemonheads, avec qui ils ont d'ailleurs tourné en 1994. Donc, c'est de la jolie power pop, pleine de bonnes intentions et de chouettes mélodies. Des bons riffs, des harmonies vocales sucrées à souhait. Mania Pop et en particulier Hot Boxing, le deuxième album, c'est un incontournable, je trouve, de l'année 1994. J'ai choisi Slowly Slowly, un titre qui fait partie un petit peu de ce gros paquet de bonbons qui est cet album Hot Boxing. C'est un petit peu acidulé, ce n'est pas sans parenté avec Sugar. Sugar, impossible de ne pas les citer, puisque c'est Bob Mould himself qui a produit cet album de Mania Pop. Donc en France, Mania Pop n'a pas eu beaucoup de succès. Apparemment, à ce que j'ai lu, en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, l'accueil a été bien meilleur. Mais pour l'Europe, c'est à peu près tout. Donc Mania Pop, pour remettre un petit peu dans le contexte, a splitté en 1997, sans avoir connu le succès escompté. Le groupe s'est reformé en 2002. Et à ce que j'ai pu voir, mais pas encore écouter, leur dernier album est sorti en 2009. Voilà, je sais pas si tu te rappelles de ce groupe, Sam.
Ouais, j'avais l'album, je l'ai toujours. C'est le seul album que j'ai d'eux, d'ailleurs, qui est pas mal. Assez inégal quand même dans le contenu et sur la longueur. Le morceau que tu passes est clairement le meilleur de l'album. J'avais connu cet album suite à une review qui était plutôt positive dans Rage Magazine, voilà.
Alors moi, tu sais où je l'ai connu, je m'en rappelle très bien, et ça sera l'occasion de glisser une petite anecdote qui va probablement te parler. Moi, à l'époque, j'étais lecteur aussi de Hard Force, et à l'intérieur de Hard Force, il y avait une petite rubrique qui s'appelait Force Parallèle, et au milieu de ce mag métal, on pouvait trouver quelques chroniques qui étaient pas du tout métal d'ailleurs, et j'avais trouvé Mania Pop sur ce petit encart Force Parallèle. Tu te rappelles de cette chronique ?
Ouais, je me rappelle pas de la chronique, mais je me rappelle de la colonne qui s'appelait Force Parallèle, où il traitait effectivement de groupes un peu soit de la scène hardcore, alternative, grunge ou même punk. Hein.
Allez, on va envoyer donc Slowly Slowly, le meilleur titre de cet album de Mania Pop, Hot Boxing, qui était un souvenir de 1994.
I'm living here.
On enchaîne avec une autre couleur musicale là, hein, Neurotic Outsiders. Le morceau s'appelle Always Wrong, tiré du seul album de Neurotic Outsiders. C'est sorti en 1996. Alors attention, un super groupe éphémère fondé en 1995 par, attention le CV, Duff McKagan, Guns N' Roses et Velvet Revolver par la suite, Steve Jones des Sex Pistols, Matt Sorum qui a joué dans Guns N' Roses et qui a aussi joué dans The Cult, John Taylor qui a joué dans Duran Duran. Donc là, on tient une sacrée feuille de match. Une bande de monstres sacrés du rock de stade qui se font plaisir en envoyant une sauce épaisse, plutôt dans l'air du temps, hein, entre gros rock'n'roll calibré et alternative rock. Donc là, ils laissent de côté tous les clichés inhérents au rock'n'roll circus du genre Guns N' Roses, etc., etc. Et il nous offre quelque chose de un peu plus pur et un peu plus frontal. Donc une bonne petite friandise que l'on a tendance à oublier de citer quand on évoque la discographie du grand Duff McKagan. Et pourtant, c'est du solide. Seb, est-ce que tu te rappelles de ce Scud-là?
Ah, tu m'étonnes que je m'en rappelle. Figure-toi que je l'écoute régulièrement encore. Ben, là aussi, une brouettée de titres qui te pète à la tronche, comme on dit. Nasty Ho, ça doit te parler. Angelina,
mais oui.
Jerk, Good News. C'est du power rock, je trouve, aux résonances un petit peu glam, un petit peu aussi un feeling un peu, des fois un petit peu années 80 dans ce qu'ils font. J'ai trouvé ce disque vraiment génial. Et pour l'anecdote, j'ai découvert il y a peu qu'à l'origine, le chanteur du groupe devait être Billy Idol, qui avait commencé à buffer avec la bande et puis qui finalement a laissé tomber et a cédé le chant à Steve Jones. Je sais pas si tu le savais, cette histoire de Billy Idol.
Alors le chant c'est Duff McKagan, hein, par contre.
Ouais, mais il y a quelques titres, tu regarderas, qui sont chantés par Steve Jones.
Ah, peut-être, ouais, mais les 80% sont chantés par Duff McKagan, clairement.
Et, oui.
Ouais, effectivement, ouais, je connaissais cette petite anecdote et je crois que ça vient de la relation. Attends, c'était quoi l'intermédiaire? C'était le Steve Stevens, ouais, le gratteux de Billy Idol, qui devait jouer aussi dans ce groupe-là. Et je crois que
exactement,
ça a commencé comme un groupe de reprise, hein, très récréatif. Et puis au final, ils ont fait ce Scud, donc qui sonne effectivement un peu rock, glammy, avec des petites racines 80, puisque c'est des gars qu'on explosait dans les années 80, mais j'y tiens, c'est quand même fait clairement dans une optique de plaire à un public des années 90, quoi.
Entièrement d'accord avec toi et pour revenir un petit peu à ça, là par contre, il y avait eu une grosse promo et c'était un disque qui avait été, je pense que ça fait partie des gros succès de l'année.
Ouais, bah certainement vu le CV. Donc je vous invite à vous le reprocurer si vous l'avez plus. En même temps, essayez de recapter le premier album solo de Duff McKagan, hein, qui est pétri de pépites, qui part un peu plus dans tous les sens, mais voilà, en termes d'album solo, je pense que là on tient un truc très très solide. Et je vous invite également à lire sa bio qui est sortie il y a 4 ou 5 ans, une des meilleures bios, hein, écrite par un musicien rock. Et là, on sort des clichés de la dope et de machin. Donc forcément, il en parle un petit peu, mais c'est aussi autre chose. Il parle de ses racines punk rock, il parle de Seattle, bien entendu, il parle du grand cirque rock'n'roll, Guns N' Roses, Velvet Revolver, etc., etc. Mais il parle aussi et surtout de ses années compliquées, et de son nouveau réveil, hein, comme un espèce de phénix qui renaît de ses cendres. Et voilà, c'est assez inspirant. Et pour l'anecdote, puisque ce numéro est gavé d'anecdotes, j'ai joué dans un groupe tribute à Body Count, et le chanteur, donc c'était des mecs de Besançon, hein, et j'ai fait 3 concerts avec eux à la basse, et le chanteur de ce groupe-là est le mec qui a traduit la bio de Duff McKagan chez Camion Blanc, comme quoi la planète est toute petite. Allez, on s'écoute ça.
Come on, it's one.
Aujourd'hui, on a envoyé pas mal d'anecdotes. On parle évidemment de musique, c'est le but du podcast. Mais un jour, il faudra quand même qu'on se penche sur l'influence énorme qu'ont pu avoir certains magazines sur le façonnage de la scène rock de l'époque. Et en particulier, les magazines anglais comme le NME et puis le Melody Maker, qui étaient là dès le début des années 90, qui ont été des relais énormes pour la scène de Seattle et toute la vague un petit peu sub-pop. Il faut pas oublier aussi que ces deux magazines anglais ont eu une influence énorme sur l'émergence du courant Britpop au travers, en particulier, la fameuse guéguerre entre Oasis et Blur, qui a permis en fait aux deux groupes de vendre des disques par wagon et d'occuper toute la scène médiatique, souvent même plus que la scène tout court. Alors personnellement, à cette époque, je n'étais pas un lecteur du NME ou du Melody Maker. Les crépages de chignon entre Blur, Oasis, j'en avais absolument rien à cirer. Mais par contre, je suis un énorme fan d'Oasis. Je crois que tu l'es aussi.
Ouais, carrément, ouais.
Et du coup, quand on a parlé d'envoyer aussi dans l'émission des gros tubes, j'ai tout de suite pensé à Oasis et en particulier à Some Might Say, qu'on va écouter juste après. Some Might Say, que Noel Gallagher qualifie lui-même comme l'archétype d'une chanson d'Oasis. Some Might Say, c'est aussi le premier single du deuxième LP d'Oasis, qui était sorti en décembre 1995. Mais Some Might Say est arrivé beaucoup plus tôt, est arrivé au mois d'avril 1995 et avait bien préparé le terrain pour l'album. Alors parlons un petit peu rapidement de ce fameux deuxième album d'Oasis, What's the Story Morning Glory. Moi, c'est mon album préféré des frangins Gallagher, un disque comme on n'en fait plus, 6 singles sur 12 titres, et franchement, je pense que tout le monde les connaît, Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Some Might Say, Morning Glory, et puis le spectorien Champagne Supernova. Ça a été un jackpot complet pour Oasis avec 22 millions de disques vendus. Une dernière anecdote, mais qui a néanmoins son charme. Pendant la première semaine d'enregistrement, Noël et Liam se sont sévèrement frictionnés à coups de battes de criquet. Et Liam s'en est sorti avec un bras cassé. Mais l'enregistrement avait pu reprendre comme si de rien n'était. Et on a eu franchement du bol qu'ils aient pas laissé tomber à ce moment-là, au moment de leur dispute, parce qu'on aurait loupé un des très très grands disques de ce milieu des années 90.
Carrément. Bon, moi, je pense que tu as bien résumé l'histoire de Oasis. On va pas en rajouter des couches. Un groupe monstrueux, hein, un des plus grands groupes au monde, qui va, je pense, bientôt se reformer, hein, puisque je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Et là, je pense que ça va être la complète guerre en Angleterre. Donc voilà, on va écouter ce morceau, tout simplement, non?
Some Might Say. We'll be right back.
C'est bientôt la fin de ce troisième épisode du podcast. Donc, on attaque la sélection française. Pour ma part, Portobello Bones. Le morceau s'appelle Dear, extrait de l'album Nu, sorti en 1995 sur le label Cemetery Records, distribution WMD. Un album acheté à sa sortie. Pour ma part, mon préféré de leur discographie, un groupe que l'on a croisé plusieurs fois sur la route avec Second Rate à la fin des années 90 et au tout début des années 2000. Donc on les a croisés quand ils faisaient la promo de leur album suivant, Refuse to Keep Silent, qu'ils avaient enregistré chez David Weber à Genève. On avait également joué à Nancy pour la sortie de leur documentaire vidéo VHS Manière 2, où le film était projeté en avant-première, si mes souvenirs sont bons. Portobello Bones, c'est un groupe de Tours, à la discographie florissante, profondément ancré dans la culture alternative, avec un discours engagé et une manière de faire cohérente par rapport aux idées véhiculées. Un groupe incontournable de la mouvance noise française des années 90 qui sortait du lot grâce à une approche plus mélodique et peut-être moins monolithique que leurs collègues de Condens, de Sleepers, de Prohibition et consorts. Eux, ils mixaient ce truc un petit peu mélancolique avec de la noise et même avec un background hardcore, hein, tout simplement. J'ai recroisé Lionel Failly, le chanteur-guitariste, il y a quelques années, à deux reprises. Maintenant, il est tatoueur. J'ai recroisé sur une convention alors qu'on jouait avec Demon Vendetta. Et je l'ai recroisé dans un bar à Strasbourg alors qu'on y jouait avec mon groupe Teenage Renegade, il y a 5 ou 6 ans de ça, en 2010. Voilà, donc je continue de lancer un appel, voire un cri, hein, j'implore pour qu'un label réédite tout ce patrimoine, hein, ça je vais vous la faire à chaque épisode. L'album Portobello Bones Nu est introuvable, ni en CD, ni en LP. Ils ont mis à disposition leur discographie via Champmax Records en download légal, mais ça, je trouve ça pas terrible. Bon, c'est bien de le proposer, mais à écouter, c'est vraiment pas GG. Je veux un beau vinyle ou un beau CD de l'album de Nu disponible à nouveau. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut mettre en place une structure pour rééditer tout ce patrimoine culturel alternatif français, s'il vous plaît? Seb, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis entièrement d'accord avec toi et je porte également ce cri, il nous faut ça rapidement pour pouvoir envoyer ça sur nos platines.
Mais ouais, sur nos platines ou tout simplement pour pouvoir partager tout ça avec des gens peut-être plus jeunes ou des gens qu'on n'a pas découvert à l'époque. Voilà. On s'écoute ce morceau Dire, Portobello Bones.
c'est l'heure d'envoyer le dernier titre de notre sélection du jour. On reste dans la frange française de la scène avec les Welcome to Jullian, un groupe qui était signé chez Barclay. Ouais, un groupe sur Major, comme quoi ça existait aussi dans les années 90. Le premier album de Welcome to Jullian était dans une veine carrément British, très très dream pop, shoegaze on va dire. Et le deuxième, bah, lui il prenait un contre-pied parfait à cette dream pop shoegaze, puisqu'il partait dans une vibe nettement plus américaine. Il s'appelait Surfing on a T-Bone. C'est d'ailleurs de Surfing on a T-Bone que j'ai extrait le titre qu'on va s'écouter en suivant. Surfing on a T-Bone, un album donc nettement plus américain, un mélange de lofi, de pop, de rock teinté d'americana, un changement de cap radical avec un disque enregistré aux États-Unis par Nick Sansano, un producteur qui avait un profil complètement atypique, puisque c'est un gars qui avait bossé notamment sur des albums de Public Enemy, de Run DMC, de Ice Cube, mais il avait aussi bossé, ce producteur, sur Le Goût et le Daydream Nation de Sonic Youth. Il avait bossé avec le John Spencer Blues Explosion, également avec les Bubblies de Toulouse sur leur fameux album No Brain, No Headache. Bon, ben écoute, Welcome to Jullian, personnellement, j'adore les deux albums, que ce soit celui sur le versant Dream Pop ou ce fameux Surfing on a T-Bone. Ça n'a pas été facile pour moi de choisir un titre, néanmoins, ouais, Choose a Cud, il passe largement la sélection, et j'espère qu'il va bien vous plaire et vous redonner aussi envie d'écouter ben, voilà, ce groupe qui n'a jamais été réédité depuis. Mais bon, ça par contre, contrairement à Portobello Bones, ça se trouve plutôt très facilement, les albums de Welcome to Jullian, distribution par Major oblige.
Ouais, et donc oui, pas les mêmes nombres de pressages, hein. C'est souvent ça, le problème de tous les disques de la scène indépendante, c'est qu'une fois que c'est épuisé, après un ou deux pressages, on passe à autre chose. Et donc pour ceux qui s'intéressent à ces disques, 10, 15, voire même 20 ans après, il ne reste plus rien. Par contre, quand vous avez fait un passage dans la case Major, effectivement, vous arrivez à retrouver les disques de ces groupes d'occasion plutôt facilement. Donc il faut que je me le rachète, cet album, puisque je l'avais à l'époque quand c'était sorti, hein, j'étais au lycée, c'est un pote qui l'avait en fait, et on écoutait ça de temps en temps, et moi je mettais ça à l'époque dans la case Sonic Youth, hein, tout simplement, hein, j'allais pas chercher plus loin. Faudrait que je retrouve ces deux albums, en effet. J'ai une petite anecdote avec le chanteur Lionel, puisque ça a failli être le premier chanteur de Los Cowboy Heroes, en fait. On avait fait une espèce de répétition où le groupe était formé, le line-up était en place, il nous restait le chanteur à trouver, on savait pas si c'est un nous qui allait chanter ou si c'était un élément extérieur, et il s'était pointé parce qu'il connaissait le deuxième guitariste de l'époque, et il avait fait un essai, bon, mais en tout cas c'est marrant, effectivement il nous a dit ouais qu'il avait joué dans Welcome to Jullian, et voilà, bon, il avait une vision de la musique à peine plus bricolée, plus lo-fi, un peu plus noisy, quoi. Et nous, une vision peut-être à peine plus carrée, américaine, un peu plus frontale, on va dire, quoi. Lionel, par la suite, il a connu une petite carrière solo, hein, bricolé, toujours dans un délire un peu entre les tout débuts de Dinosaur Junior, Pavement et ce genre de groupe. Donc vraiment pop indépendant de la fin des années 80, du début des années 90. Donc il est resté scotché dans ce délire-là. Et voilà, aux dernières nouvelles, il continue d'enregistrer quelques songs et de faire un concert vraiment de temps en temps. D'ailleurs, le batteur d'Elbass, le Tom Toxic, l'avait accompagné sur 4 ou 5 concerts quand ils avaient joué dans la région. Voilà, c'est un mec qui habite Montbéliard, c'est-à-dire à une heure de chez moi, quoi. Voilà pour ce qui est de l'héritage de Welcome to Jullian. On écoute ce morceau, Seb.
Yeah.
Ok, donc c'est déjà la fin de ce troisième épisode, Seb, ça file. Vous pouvez écouter et télécharger les trois premiers numéros. L'épisode pilote, le numéro 1, le numéro 2. C'est sur la page Podomatique que ça se passe. On se donne rendez-vous le mois prochain, toujours pour une sélection tapée dans les années 90. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a divertis. Seb, c'est toi qui donneras le mot de la fin.
Écoutez, on vous laisse. On espère que vous avez bien déliré avec nous. Continuez à écouter du bon son. Ça ne peut pas faire de mal. Salut à tous.
Allez, à plus, Seb. Ciao.
Salut, Sam.